France Inter. Le 7-10.
Léa Salamé, vous recevez ce matin une chef.
Une chef franco-ivoirienne qui, elle aussi, s'y voyait déjà en haut de l'affiche. Bonjour Mawa McQueen, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour, merci de me recevoir.
Si vous étiez un continent, un personnage historique et une recette de cuisine, vous seriez qui? Vous seriez quoi?
Un continent, je dirais aujourd'hui l'Amérique.
Ouais.
Dans le futur, ça sera l'Afrique. Et puis l'autre question.
Un personnage historique.
Rosa Parks.
Rosa Parks.
Oui.
Évidemment.
Évidemment.
Et une recette de cuisine.
Le mafé.
Le mafé. Oscar Wilde disait « Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. » Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase, vous qui vivez à 1000 à l'heure?
Mais c'est génial parce que j'ai repris cette phrase dans mon livre.
Ouais.
Parce que il faut... Je veux plus exister. Je veux vivre. Je veux croquer la vie à plein de dents et voilà quoi.
Vous l'avez toujours croqué à plein de dents. Quelle histoire incroyable que la vôtre quand même, Mawa McQueen. On a du mal à y croire tellement ça semble surréaliste votre histoire. Vous êtes née dans une famille très pauvre d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans un village à côté d'Abidjan. Vous avez passé votre adolescence à Trappes, en banlieue parisienne, avant de partir avec une détermination et une volonté de faire aux États-Unis il y a 20 ans, où vous avez fait fortune dans la restauration, dans la station de ski la plus chic des États-Unis, Aspen, avec des crêpes de luxe dont les Américains raffolent. Vous avez aujourd'hui 4 restaurants, 120 employés. Vous allez encore développer des restaurants un peu partout aux États-Unis, des franchises. Vous êtes invitée sur tous les talk shows américains. Vous vous êtes construite toute seule, sans famille, sans héritage pour vous aider. C'est une leçon de vie que vous racontez dans ce livre, dans votre autobiographie. Une ambition sans limite parue dans votre maison d'édition, MCQ, parce que vous avez votre propre maison d'édition. Voilà, c'est comme ça aux États-Unis.
Oui.
Et on le trouve, on le commande en le lisant sur Internet. Votre destin part d'une phrase que vous avez entendue enfant, quand vous étiez à Abidjan encore et que vous regardiez la série The Cosby Show. Le Cosby Show, cette famille noire américaine qui était riche, qui avait réussi. Vous la regardiez à Abidjan et il y a cette phrase... Je ne veux pas devenir une statistique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, pour moi, je voulais pas être la norme. Je voulais pas être dans les en disant que je suis née à Trappes. Il faut que je vive là. Il faut que je mange là. Il faut être dans les normes. Non, je voulais pas. Je voulais être en dehors des statistiques.
En dehors des statistiques.
Ah oui, absolument. Pour moi, c'était avoir une autre vie, avoir une autre option de vie.
Et c'est ce que vous racontez dans votre livre, vous donnez tout un tas de conseils pour y arriver.
Sure.
Je vais y venir, mais d'abord votre histoire, parce qu'elle est vraiment formidable. Vous naissez donc il y a 50 ans.
Mm-hmm.
50 ans.
Presque, hein.
Presque, 49 et demi.
Ah, 49 et demi, jusqu'au mois de juillet.
Dans un village, donc près d'Abidjan, votre mère est chrétienne, elle a 18 ans, votre père musulman, il a déjà 2 femmes. Ces deux êtres n'avaient rien à faire ensemble, écrivez-vous. Mm-hmm. D'ailleurs, ils se séparent et ne peuvent pas s'occuper de vous. Ils vous confient à une tante lointaine. Mm-hmm. Vous écrivez, j'ai été ballottée d'un foyer à l'autre, nous avions à peine un repas par jour, enveloppée dans un vieux pagne, je dormais sous la table et j'ai appris à me taire, à devenir invisible et à me fondre dans le décor car je me sentait indésirable et abandonné.
Oui, à l'époque, oui.
Ça a vraiment été ça, vos 10 premières années,
quoi. Ah oui, ça a vraiment été... Oui, absolument, parce que c'est des sentiments que j'ai eus. C'était assez traumatique, je dirais.
Vous vous sentiez mal aimé, quoi.
Je me sentais mal aimé parce que je ne savais pas où me mettre, et j'avais l'impression que j'étais indésirable. J'avais pas de père à l'époque parce que je le connaissais pas. Ma mère était chrétienne, mais bon, je la voyais pas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'élevait.
Qui vous élevait. Non, c'est bon, le français ça va. Ça fait 25 ans que vous êtes aux États-Unis, mais ça va quand même. Votre quotidien s'améliore un peu à l'âge de 9 ans quand votre père vous reprend à sa charge, mais ça va durer que 3 ans. Et à l'âge de 12 ans, on vous envoie en France où habite désormais votre mère, à Trappes, donc en banlieue parisienne, où elle a refait sa vie. Et là, vous découvrez des frères, des demi-frères et sœurs que vous n'avez jamais vus de votre vie. Et vous comprenez vite qu'on vous a envoyé là-bas pour vous en occuper. Vous écrivez, imaginez 12 personnes entassées comme des sardines dans un 3 pièces où je devais cuisiner, faire le ménage, m'occuper de mes demi-frères et sœurs que je n'avais jamais rencontrés jusqu'alors. J'ai 12 ans et je suis déjà la boniche.
Quelque part, oui. Mais c'était un bon training pour moi. C'est quelque chose que, avec le recul, je me dis... C'est vrai qu'on voit les choses différemment avec le recul. Avec le recul, c'était un... droit de passage, je dirais. Et à l'époque, on le faisait sans... C'est quelque chose que, avec quoi on ne discutait pas. C'est, je suis la grande, donc je dois m'occuper de mes frères et sœurs. Et je le faisais.
Ouais.
Et c'est quelque chose que
vous
je
vous disais. Disiez pas, c'est injuste, moi.
Ah non, à jamais, à jamais. Je crois que, en fait, quelque part, j'étais la bosse, quoi. Déjà.
Déjà.
Déjà, je le faisais avec fierté et avec... discipline.
Ouais. Et pourtant, vous dites, je détestais faire le ménage.
Ah, je déteste faire le ménage. Oui, mais le côté boss, je l'avais déjà. J'aimais diriger les gens.
Et c'est là, en tout cas, que vous apprenez à cuisiner.
Ah oui.
Gamine, à 12-13 ans, parce qu'il faut faire à manger à vos frères et sœurs.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Après, mes parents travaillent, donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes de tes frères et sœurs, quoi.
Et puis, vous faites un lycée pro, vous faites un CAP au lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines. Vous commencez des petits boulots dans les restaurants. Vous racontez, il y a un extrait sur les blessures du corps de ce que...
Je les ai toujours!
Vous les avez toujours. Vous dites, je ne compte plus les coupures, les brûlures causées en cuisine, dont mon corps peut encore témoigner. Ces blessures sur mon corps sont devenues mon insigne d'honneur et de discipline.
Oui.
Malgré les souffrances, malgré les rejets, vous gardez votre rêve qui se résume au fond dans une chanson de Black Mamba, une chanson que vous adorez, qui est sur votre compte Instagram. Mmh. Je m'arrache au soleil, mon existence d'avant, je la raye.
Oui.
Oui. Mon existence d'avant, oui. Je la
raye. Alors. Vous vous arrachez pas au soleil, mais aux États-Unis, à Aspen, grâce à un coup de chance incroyable, là aussi. Vous êtes jeune fille au pair à Londres, vous gagnez le visa américain, la green card, dans une loterie à laquelle votre petit copain de l'époque vous avait inscrite.
Correct. Oui.
Mais comment c'est possible, ça?
Mais c'est fou. Parce que franchement, je savais même pas que ça existait et je pensais même pas. Attends, j'étais désespérée. Ça fait 10 ans que j'essayais d'aller aux États-Unis. Il ne se passe rien. Les gens veulent pas de moi. J'ai appris l'anglais, je suis bilingue maintenant, j'envoie toujours des CV et c'était lourd.
Personne vous répond, personne.
Ah oui, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Et vous dites, je fais une vraie dépression à ce moment-là, parce que je me dis, je ne vais pas m'en sortir.
Non, oui, mais moi, je me suis dit, je m'en fous, je vais continuer. Et mon petit ami à l'époque, qui était très gentil, qui m'envoie cette coupure de presse, qui me dit, tu vois, il y a la loterie pour les États-Unis. Je dis, mais attends, il est malade, lui. Si je savais, je l'aurais fait. Et si ça existait, je l'aurais su. Je croyais que je savais tout. Mais on ne s'imagine même pas que ça existe, ce truc-là.
Et ça existe.
Et je lui dis, moi, c'est bon, hein, moi, je ne paye pas £30 pour ça, quoi. Et c'est lui qui a joué.
Et il vous a payé.
Oui.
Et vous avez gagné.
Oui. Et il m'a largué aussi.
J'ai envie de vous dire tant mieux.
Tant mieux.
Parce que l'avion pour les États-Unis, là, vous arrivez dans votre rêve.
Oui.
Toujours le Cosby Show, vous rêviez.
Oui.
Vous êtes dit, ce sera là-bas. Il y a une autre série que vous regardiez, Enfant à Trappe. C'est Les Feux de l'amour, l'après-midi sur TF1. Oui. Et Les Feux de l'amour, ils vont à Aspen. Aspen, c'est la station la plus huppée, la plus chic.
Absolument.
Et c'est là où vous débarquez, vous travaillez dans des petits restos, vous faites la plonge, vous faites la serveuse, vous faites tout ça.
Tout.
Vous devenez, et puis à un moment, vous lancez votre business. C'était il y a 18,
chef
20
privé.
Ans.
Hein
voilà.
Chef privé.
Et vous comprenez que là, les Américains très riches sont prêts à payer des fortunes pour la gastronomie française dont ils raffolent. Et vous avez l'idée de génie qui est la crêpe.
Ah oui.
Et parce qu'il faut quand même savoir que vous faites payer $148 une crêpe au caviar. Non mais c'est du délire.
Non, c'est pas du délire, parce qu'en fait, ça va très bien avec le marché. Il faut connaître son marché. C'est des gens qui vont payer pour des choses. Le caviar, ça coûte cher. Même sans la crêpe, ils vont payer $200 pour le caviar. Alors pourquoi pas la mettre dans la crêpe?
Ouais.
Tu vois?
Ouais. Et alors la crêpe? Comment vous avez l'idée de la crêpe et comment ça marche?
En tant que Française, je me suis dit, on peut pas être dans une station de ski sans avoir une crêperie. Mais c'est quoi ce truc-là? Et donc je me suis dit, je vais faire une crêperie. C'est comme le mien, c'est Starbucks Meat Crêperie.
Starbucks mixte mélange avec crêperie.
Voilà.
Voilà. Et ça donne ça. Ça donne Mawa's Chicken et maintenant ça a changé, ça devient The Crepe Shack.
The Crepe Shack.
The Crepe Shack.
Parce que c'est petit et
Et donc vous dites je mélange toutes mes influences africaines, françaises, américaines dans vos crêpes.
Oui.
Vous proposez toutes les crêpes possibles et imaginables.
Ah oui.
Et ça cartonne, mais vous avez eu des revers, il y a des restaurants qui n'ont pas marché, il y a des projets qui ont coulé pendant le Covid, vous avez pris cher. Vous n'avez jamais perdu la pensée positive dont vous parlez dans ce livre ?
Mais j'ai pas le choix, pour moi, il faut que ça marche. Il y a pas qu'est-ce que je vais faire d'autre ?
Mais quand vous ratez ?
Quand je rate, je pleure, je me relève et puis j'y vais. Je dis non mais il y a quelque chose que j'ai dû mal faire, donc il faut se relever. Justement,
vous relevez.
Toujours.
Et quand on vous a dit des milliards de fois, on vous a dit tu vas jamais y arriver.
Je leur dis mais attendez, vous êtes malade, c'est moi qui décide. Personne jusqu'à maintenant, c'est moi qui décide. J'investis à moi. Moi on m'a dit à Aspen, il y a pas de place pour toi. Ben je suis allée à 10 minutes, je suis pas dans Aspen, je suis à 10 minutes mais je l'ai fait.
Et le racisme que vous avez connu, vous êtes la première chef noire à Aspen, vous racontez au début, même en France au début, pour vous dire à quel point j'étais conditionnée par le racisme, j'allais voir des hôtels 5 étoiles, je postulais pour faire le ménage, parce que je suis noire.
Oui.
Donc je suis noire, forcément je dois faire le ménage.
Mais oui, parce que ça c'est l'idée qu'on vous met ici. C'est vraiment le conditionnement, c'est mon expérience, peut-être que ça n'existe plus maintenant. Mais c'est mon expérience et donc c'est vrai que quand j'allais, j'essayais pas de faire autre chose que ce que j'étais conditionnée, surtout en étant étranger. Je suis étrangère aux États-Unis.
Et en France, vous étiez aussi une étrangère.
Voilà.
Vous avez quelle nationalité d'ailleurs ?
Je suis africaine, French, américaine. J'ai les deux. Je suis française.
Vous avez les trois passeports ?
Non, j'ai les deux passeports. Je suis
française et américaine.
Oui, oui.
Vous n'avez pas pris le passeport ivoirien.
Il faut que je le prenne.
Ouais. Ouais. Je me suis demandé si cette histoire, votre histoire folle, ce rêve américain, aurait pu avoir lieu en France aussi.
Oui, absolument. Ah. Aujourd'hui, je dis et je suis convaincue. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs, que ça aurait pu être en France. Mais le problème, c'est que à l'époque, moi. On m'a vendu, en étant en France, on m'a vendu le rêve américain. Et je voyais personne qui me ressemblait.
Aujourd'hui, vous dites que je n'avais pas de modèle noir en dehors du sport et du divertissement en France.
Voilà.
Et là, aujourd'hui, vous pensez que les choses changent. Vous êtes allé à l'automne dernier dans votre collège de Trappe.
Oui, il y a plein de noirs.
Et oui.
Yes! Il y a des femmes, c'est totalement différent. Mais aujourd'hui, l'expérience que les jeunes ont, c'est magnifique. Je trouve que.
Donc vous y croyez, il peut y avoir un rêve français comme il y a un rêve américain.
Il y a un rêve français, c'est même pas il peut, c'est le rêve français existe, c'est parce qu'on l'a pas encore pris, on l'a pas encore fait, comment on dit, on l'a pas encore fait le nôtre.
Ouais, mais ma queen, je vous ai posé la question dans le couloir, est-ce que vous aimez revenir en France, vous revenez une ou deux fois par an, et vous m'avez répondu, maintenant oui.
Maintenant oui.
Et pourquoi avant non ?
Avant non, parce que j'avais des blessures.
Ouais.
Et il m'a fallu du temps pour comprendre que, bon, bah, écoute, ça c'était à l'époque et maintenant les choses ont changé.
Il y a une femme qui a changé votre vie, elle s'appelle Oprah Winfrey, c'est la star absolue des talk shows américains.
Oui.
Pense comme une reine, elle dit. Une reine n'a pas peur d'échouer, pense comme une reine et elle donne ce conseil-là. On l'écoute, Oprah.
Some kind of vision for your life.
Vous devez avoir une sorte de vision de votre vie. Même si vous n'avez pas le plan, il vous faut une direction dans laquelle vous choisissez d'aller. Je n'ai jamais été le genre de femme qui aimait monter dans une voiture pour simplement faire un tour. J'avais un petit ami qui me disait « Allons faire un tour ». Mais moi, je veux savoir. Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on a une destination ? Il y a un plan ou juste on roule ? Ce que j'ai appris, c'est que c'est une excellente métaphore de la vie. Vous voulez être aux commandes de votre vie, car si vous ne l'êtes pas, c'est la vie qui vous conduira.
C'est vrai.
Tu dois avoir une direction, sinon c'est la vie qui te conduit.
Ah oui, c'est vrai.
Et vous dites aussi dans votre livre, un des premiers conseils que vous donnez dans Une ambition sans limite, c'est n'attends pas qu'on vienne te sauver, personne ne viendra te sauver. Tu te débrouilles tout seul.
Ah oui.
À la fin, on est tout seul, quoi.
À la fin, on est tout seul. On est venu tout seul dans le monde et on finira tout seul.
Dans sa confiance en soi, oui, et peu importe ce que disent les autres. Mm-hmm. Les impromptus, vous répondez très rapidement, sans trop réfléchir. Qu'est-ce que vous avez de français en vous ?
À la culture.
D'américain en vous ?
Vouloir tout réussir, vouloir réussir.
Vouloir réussir. La mentalité de gagnant, quoi, ce que vous appelez la mentalité de gagnant. D'ivoirien en vous, d'africain.
La musique. Mm.
Votre crêpe préférée, elle est à quoi ?
Poulet, champignons et pesto.
Omar Sy ou Jamel Debbouze ?
Omar Sy.
La team de trap. Martin Luther King ou Malcolm X ?
Martin Luther King.
Donald Trump ou Joe Biden ?
Neither.
Neither. Ni l'un ni l'autre. La dernière fois que vous avez pleuré ?
Il y a une semaine.
Pourquoi ?
Mais parce que en fait, j'ai fait du golf avec un des chefs que j'adore, Thomas Keller, et j'ai halluciné que moi, je fais du golf avec ce gars-là et dans un truc privé, et c'était...
Ça y est, vous faites du golf maintenant. Ça y est.
Oui, ah non, mais attendez, j'aurais jamais cru de ma vie. Donc,
qu'est-ce qui vous met en colère, encore aujourd'hui ?
La stupidité des gens.
Le temps qui passe, ça vous angoisse ?
Pas du tout, je trouve que le temps, ça bonifie.
Pizza ou blanquette de veau ?
Blanquette de veau, bien sûr.
L'amour, vous avez le temps ?
Ah oui.
Vous êtes amoureuse ?
Oui, de mon mari, qui est un homme magnifique.
Jean Humbert ou Hélène Darroze ?
Hélène Darroze.
McDo ou Burger King ?
Neither.
Ni un ni l'autre. Les Alpes ou les Rocheuses ?
Les Rocheuses !
L'argent fait-il le bonheur, Mao McQueen ?
L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue et il vous donne des options.
Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ?
Liberté.
Et Dieu dans tout ça ?
Il est là, tranquillement.
Une ambition sans limite, cultiver un état d'esprit propice au succès, c'est votre livre qu'on peut trouver sur Internet, puisque c'est vous-même qui l'avez édité, puisque vous faites tout vous-même. Édition MCQ. MCQ. Voilà, on trouve sur
Amazon.
Ouais, je ne voulais pas la faire plus, mais c'est fait. On est encore en France. Merci Mawa pour ce beau parcours de vie et belle journée à vous.
Merci.
Et merci Léa Salamé, vous nous aviez prévenu qu'on l'adorerait à la fin de l'interview.